Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'agité du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 mars et au sommaire de cette émission, on va parler du théâtre forum à Château-Gontier proposé vendredi autour des solutions justement à apporter aux seniors, notamment pour le maintien à domicile. On va aussi parler de tout ce programme autour de l'Algérie et donc forcément en lien avec l'actualité puisque ce sont les 60 ans de la fin de cette guerre d'Algérie avec tout un programme et notamment une pièce de théâtre très forte proposée par le théâtre du Tiroir à Laval. Vous retrouverez aussi Soizic avec une chronique autour de la volatilité électorale, elle nous expliquera tout ça. Et puis en fin d'émission, un feuilleton autour du club de roller de Marigny-Peton qui participe notamment ce week-end à une manche de la Coupe de France de roller vitesse, ça se passe à Château-Gontier. On va voir quels sont un petit peu les objectifs du club pour ce dimanche. Et ça donc ce sera en fin d'émission. Évidemment, je ne l'oublie pas. Salut Andy.
Salut Marie.
Qui est avec nous pour cette émission aussi. Et tout de suite, on va faire un point sur l'actualité avec Audace 53 qui envoie ses souhaits aux candidats à la présidentielle.
Dans un courrier, l'association des usagers pour la défense de l'hôpital et des services publics de santé du Nord-Mayenne s'adresse aux différents candidats et leur demande d'ailleurs une réponse d'ici le 21 mars à plusieurs propositions, notamment l'abandon immédiat de la tarification à l'acte T2A dans les hôpitaux, la mise en place d'un ratio contraignant d'un infirmier et un aide-soignant pour 8 lits le jour et 12 la nuit, la régulation de l'installation des médecins selon les besoins des territoires et dans les EHPAD, et tendre vers un salarié pour un résident.
Et justement, faites part de vos idées et vos envies à moins d'un mois des élections.
C'est ce que vous propose l'association Aux Actes Citoyens à Château-Gontier grâce à des cartes postales que vous pouvez déposer dans 6 boîtes aux lettres à la boulangerie Piquet à Azé, au salon de coiffure Bertrand à Bazouges, à Château-Gontier à la crêperie L'Agora, la librairie M. Lirangeau, le bar La Havane et la boulangerie La Petite Zoé, avec une restitution prévue la première semaine d'avril.
Une grève demain pour le pouvoir d'achat et la hausse des salaires.
Les confédérations CGT, FSU, Solidaires et UNSA appellent à un rassemblement ce jeudi à Laval devant la préfecture à 11h30. Alors que les prix continuent d'augmenter, notamment à la pompe, le syndicat demande notamment une revalorisation immédiate de l'ensemble des salaires et une augmentation des bourses pour les étudiants et des pensions pour les retraités.
Une amende avec sursis pour des menaces envers le maire de Cossé en Champagne.
Elles ont été proférées en 2019 par un agriculteur mayennais, aujourd'hui âgé de 65 ans. Après plusieurs divagations de ses bovins, le maire a décidé d'agir en lui demandant de ramener ses bêtes. Pas vraiment au goût de l'agriculture qui a menacé l'élu. Le prévenu a écopé finalement de 600 euros d'amende avec sursis.
Stop au tout 30 km/h à Mayenne.
Titre de la pétition lancée par un habitant de Mayenne, alors que la majorité des rues de la ville sont passées à 30 km/h depuis lundi, une mesure voulue par la municipalité mais décriée par ses habitants qui ne comprennent pas où est l'intérêt de passer à une vitesse aussi basse sur le viaduc et les boulevards. La pétition a déjà été signée par 964 personnes sur le site change.org.
Et oui, on aime les chiffres précis. Demain aura lieu une première soirée débat autour des compétences psychosociales.
En effet, entre 19h30 et 21h30 au quartier Ferrié dans la salle 1 du bâtiment 13, au menu comment communiquer efficacement avec son adolescent et comment être habile dans ses relations interpersonnelles avec l'intervention de Sotiria Amarantos de Jeux des Vies.
À Laval, bien sûr. Et cet après-midi, du côté de Cran, l'événement Ose ton job.
Organisé par la communauté de communes du Pays de Cran et le conseil départemental de la Mayenne, cet événement a pour but de mettre en avant les métiers de l'aide à l'accompagnement à la personne, un secteur en difficulté de recrutement. Rendez-vous place du Mûrier de 14h à 17h.
Et des scénettes pour rire et surtout pour faire réfléchir sur le quotidien des personnes âgées. C'est ce que propose vendredi à Château-Gontier la MSAIO de la Mayenne, pour MSAIO pour mission, soutien, accompagnement, insertion et orientation autour de la perte d'autonomie. Et en parallèle des ateliers vitalité, mémoire et nutrition régulièrement organisés, elle met en place donc ce théâtre forum vendredi avec ce titre encore bien acteur que nous explique Floriane Salard, intervenante sociale de la MSAIO dans le sud Mayenne.
Ce thème, il a été choisi suite à un parcours de santé des aidants qui a eu lieu donc sur la ville de Château-Gontier en 2019. Donc c'est vraiment voilà pour encore être bien acteur voilà de sa vie. Donc en fait, c'est une troupe de théâtre parisienne qui intervient et qui joue des scénettes donc vraiment sur la vie quotidienne des personnes. Et donc c'est une façon un peu plus humoristique voilà d'aborder les choses de la vie quotidienne sur les seniors. Ça, c'est un théâtre forum qui a été mis en place avec la MSA. Ça peut être par exemple une personne âgée donc qui a la visite de sa fille et sa fille remarque voilà qu'il y a des absences chez sa maman, des oublis de vêtements ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'aborder donc la thématique des oublis donc de la mémoire. Et donc à travers cette scène, on essaie de faire relever les problématiques qui en ressortent. Et donc après cette scénette, il y a un débat en fait qui est organisé pour savoir ce qu'on pourrait mettre en place, des petites astuces voilà, pour essayer de pallier à ces besoins. Il y a également des professionnels donc, sur le territoire qui sont présents. Par exemple le CCAS de la ville ou voilà, la DMR, des choses comme ça, qui peuvent aussi intervenir pour présenter voilà, ce qu'ils font sur le territoire et qui peuvent être sollicités par les familles. Donc ce théâtre forum-là est pour sensibiliser au bien vieillir. Donc c'est à destination des personnes âgées et également de leurs aidants. Donc ça peut être la famille, voilà, des voisins qui aident une personne âgée, donc les conjoints, les enfants. C'est un peu tout type de public. Il y a des retours très positifs. Les personnes sont vraiment contentes aussi de se rendre compte de certaines choses où ils n'avaient peut-être pas pris connaissance avant. Et le fait de le voir mis en scène et avec voilà, un côté d'humour, c'est vrai que ça plaît beaucoup, surtout aux personnes âgées, elles étaient vraiment ravies.
Et rendez-vous donc vendredi à 14h au foyer rural de Château-Gontier-sur-Mayenne. C'est gratuit sur inscription au 02 33 31 41 34 ou bien par mail à aadpa@msaio.fr.
Et tout de suite, l'interview du jour autour d'un programme sur les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Et juste avant, pause musicale avec Quick Ball de Honey Fit.
Thank you.
c'était Quickball Donifit dans l'agité du local sur l'autre radio. Du théâtre, une conférence et un film autour des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Tout un programme ce week-end intitulé « Algérie, mon amour » concocté par le Théâtre du Tiroir à Laval. Et ça commence dès samedi soir à 20h30 avec la représentation de Paris, cité interdite d'Amira Jeanne Kalfala. Je suis désolée si j'écorche un petit peu le nom. Une pièce qui fait écho au massacre de dizaines d'Algériens noyés dans la Seine le 17 octobre 1961. Un texte fort et engagé, en répétition d'ailleurs cette semaine avec les acteurs et notamment celui qui est à l'initiative de ce temps fort, Jean-Luc Bansard, le directeur du Théâtre du Tiroir.
Et qui êtes-vous pour me dire ça ?
Un fantôme ! Un fantôme qui t'empêchera de travailler, de rester ici, si tu continues. Regarde-moi, je suis ton passé qui te parle, qui saigne et qui marche vers toi.
Alors bienvenue au Théâtre du Tiroir, dans le installé depuis 27 ans maintenant dans le petit théâtre 8 rue Jean Massé à Laval, accueilli par la municipalité. Et c'est là où nous créons nos spectacles et en particulier en ce moment, Paris, cité interdite de Amira Jeanne Kalfala, une autrice algérienne qui a écrit un texte que je trouve magnifique, qui raconte un drame français, le massacre des ouvriers algériens à Paris le 17 octobre 1961.
Qui est proposé forcément en lien avec l'actualité, en écho, puisque ça fait donc 60 ans que s'est terminée la guerre d'Algérie. C'était volontaire forcément de faire un focus donc avec ce spectacle et même d'autres rendez-vous tout au long de ce week-end autour de cet événement des 60 ans de la signature des accords d'Évian.
Oui, alors à l'heure où une guerre sévit en Europe depuis 7 ans, qui a pris une ampleur incroyable cette dernière semaine, il y a une autre guerre qui se rappelle à nous par la mémoire de sa fin, donc c'est l'Algérie. Moi j'ai beaucoup de liens avec l'Algérie, j'ai tourné mes spectacles, j'ai travaillé dans plusieurs instituts français là-bas pour donner des stages. J'ai beaucoup d'amis algériens. Mon premier ami ouvrier est algérien. Il habite Saint-Nazaire. On a travaillé 4 ans ensemble. J'ai plein de raisons de dire à mes frères et sœurs d'Algérie, on ne vous oublie pas. Et j'ai la chance d'avoir rencontré il y a 10 ans cette autrice algérienne qui s'appelle Kalfala, Amira Kalfala, qui m'a confié un texte qui n'a jamais été édité, jamais joué. Je l'ai dans mes tiroirs depuis 10 ans. Et au début, je voulais seulement faire une lecture de ce texte pour marquer ses 60 ans. Et en lisant le texte, j'ai senti la force qu'il avait, l'incroyable force. Et parler de la guerre d'Algérie en Algérie, c'est une chose, et c'est très bien. On va le faire avec un film qui s'appelle « Avoir 20 ans dans les Aurès » de René Vautier, ce sera le lundi 21 mars. Parler de la guerre d'Algérie, c'est donner la parole aux deux protagonistes, hein, c'est-à-dire ceux qui ont subi pendant 130 ans le colonialisme, les Algériens. Et là, j'ai choisi un très grand historien algérien qui s'appelle Dao Djerbal, qui va venir à Laval, à la bibliothèque, le dimanche 20, bavarder avec la fille de celui qui a signé les accords d'Évian, Madame Martine Buron, donc fille de Robert Buron, ministre à l'époque, qui fut députée et maire de Laval un peu plus tard. Et moi, ma façon, mon langage, c'est le théâtre. Et donc j'ai ressorti ce texte d'Amira Kalfala et je raconte quelque sorte la guerre d'Algérie en France, sur le sol français, avec ce massacre incroyable, impardonnable, qui n'a jamais été reconnu par l'État français.
Effectivement, ça, c'est un texte, vous disiez, qui n'a jamais été encore joué, jamais été encore dit. Est-ce que ça ne rajoute pas justement une petite pression avant la représentation samedi ?
Oui, mais c'est une pression bénéfique. Dimanche dernier, Amira Kalfala, qui vit actuellement aux États-Unis, parce qu'elle est journaliste et aussi réalisatrice de films, elle a assisté dimanche dernier à la journée de travail. Et pour nous, c'était un grand honneur de voir cette dame algérienne suivre nos travaux, nos répétitions. Et pour elle aussi, c'était une émotion très grande parce que son texte n'a pas été édité. Nous, on va l'éditer dans notre petite maison d'édition, édition du Théâtre du Tiroir. On espère qu'il va être entendu par d'autres maisons d'édition et qu'il sera édité. Enfin, moi, je vais tout faire pour qu'il le soit parce que pour moi, c'est un grand texte contemporain. C'est une écriture neuve, pleine de fraîcheur et qui a une grande qualité, c'est-à-dire qu'elle oppose à la guerre la poésie. Et ça, c'est très rare en ces temps d'aujourd'hui.
À quoi est-ce qu'on peut s'attendre justement sur scène ? Alors, sans tout raconter pour ceux qui vont venir samedi soir, mais comment traiter un événement aussi grave et aussi tabou en même temps ?
Alors, ça, c'est la force du dramaturge, hein, de Madame la dramaturge Amira Kalfala. Elle a pris le parti de se mettre elle-même en scène. C'est une fille qui n'a pas, c'est une dame, une femme, qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, si ce n'est par ses oncles et ses cousins qui l'ont vécu en tant que combattant, quand on fait daïn, hein, fait laga, comme on dirait. Et il y a eu des morts, peut-être elle a des amis qui sont morts à Paris aussi dans ce massacre. Donc elle est, comme beaucoup, beaucoup de gens français qui ont vécu cette guerre, très très mal, ils l'ont mal vécu. Beaucoup d'Algériens qui préfèrent cacher un peu les drames, eh bien elle se débat avec ses fantômes. Et donc le spectacle, il est conçu comme cet auteur qui essaie de sublimer ces fantômes qui l'habitent, mais dont elle ne sait pas comment en parler. Elle trouve une idée magnifique, c'est qu'elle fait venir un rescapé du 17 octobre 61 qui vient lui expliquer que son histoire, c'est très très important de la raconter, on a trop oublié. Et c'est un peu le combat de ce fantôme qui vient dire à l'auteur, raconte cette histoire, personne ne veut l'entendre, c'est très important. Et puis les choses basculent peu à peu, ça devient un théâtre, on va dire documentaire, puisque les vraies images d'archives de Lina sont vues par le public, c'est-à-dire les gens vont voir en direct, oui, dans la salle, ce qui s'est vraiment passé. Ces images qu'on a cachées, les films ont été interdits pendant plusieurs années. Nous allons les montrer. Ce sont les reportages que le gouvernement français a censurés pour éviter de reconnaître le massacre qui a été proféré par l'État français. Je rappelle le mot du préfet Papon, de sinistre mémoire, après avoir envoyé les Juifs au Veldiv et en Allemagne. En 61, il était encore préfet de Paris et il a dit cette phrase aux policiers, écoutez bien, il a dit « Pour chaque coup reçu, donnez-en 10. Chaque coup reçu, répondez par 10 coups. » C'est un permis de tuer. Et les policiers, dont certains étaient proches de l'OAS, c'est-à-dire les tenants de l'Algérie française, qui ne voulaient pas céder un pouce aux Algériens, considérant que les Arabes n'avaient rien fait dans leur terre et que c'est les Français qui avaient fait tout, eh bien, ces gens-là, qui étaient dans la police, ne s'en sont pas privés, à tel point qu'il y a eu beaucoup de meurtres qu'on n'a pas pu élucider. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup même d'anonymes. On a caché le nom des morts.
C'est aussi un événement qu'on ne connaît pas forcément, dans les cours d'histoire, ce n'est pas ce qu'on va évoquer en premier en tout cas. Est-ce que l'idée avec ce spectacle, c'est aussi d'ouvrir les yeux ou une piqûre de rappel éventuellement pour ceux qui connaîtraient déjà ce tragique événement ?
Alors les gens de mon âge s'en rappellent, puisque même hier soir je parlais avec des gens de Tunisie, des gens du Liban, ils connaissent les massacres de Paris parce que voilà, ils ont été des pays colonisés, le Liban comme la Tunisie, donc ils connaissent les agissements de l'État français dans ses pires heures. Mais nous allons accueillir ici des jeunes, des lycéens de seconde, première, qui vont venir découvrir. Pour eux, ça va être une découverte, ils ne connaissent pas. Donc on fait le pari que ce spectacle d'art vivant va leur permettre de regarder l'histoire d'une autre manière. Les professeurs se plaignent que cet épisode de la guerre d'Algérie ne soit pas étudié en classe, parce que c'est quand même sur le sol français, c'est un massacre. Entre 200 et 300 personnes. Jean-Luc Enaudi, le grand historien qui a fait un livre qui s'appelle Octobre 61, lui parle de 325 morts. Il les a nommés. D'ailleurs, on verra leur nom sur la scène à un moment ou à un autre.
L'idée, c'est de leur rendre hommage aussi, ou en tout cas que ce soit plus visible.
Ah, c'est clairement le parti pris de l'auteur et le mien, donner la parole à ceux qu'on a fait taire pendant 60 ans. C'est très clairement ça, donner la parole aux 100 voix qu'on a voulu faire taire.
C'est vrai que sur un sujet comme ça, très sensible, très lourd aussi, là pour avoir vu un petit peu les répétitions, on voit qu'il y a aussi l'idée de contrebalancer par des moments un petit peu plus joyeux, c'était aussi l'exercice.
Oui, la pièce est écrite de manière très intelligente puisqu'elle ne cache rien, elle raconte les massacres, vous verrez de façon très poétique l'assassinat parce qu'on a trouvé une forme visuelle qui est assez supportable et qui secoue. Mais l'auteur et son fantôme vont devenir de très grands amis et grâce à la catharsis du théâtre, ce fantôme va redevenir humain. Et c'est ça l'enjeu en fait de toute guerre. C'est que les gens qui sont, je pense aux soldats, aux Ukrainiens, les paysans, les boulangers, les menuisiers d'Ukraine qui deviennent aujourd'hui des soldats, qui oublient leur métier, ils deviennent des soldats. En quelque sorte, ils se déshumanisent puisqu'ils sont obligés de tuer le loup qui vient dans la bergerie. Eh bien, tout l'enjeu d'après-guerre et des mémoires, c'est de redonner une forme humaine. Dans la poésie de Amina Kalfala, elle utilise le terme d'animalité. Ces morts sont réduits à des animaux qu'on a cachés dans les sous-bois. Et voilà, c'est une belle métaphore, redevenir humain.
Surtout dans ce contexte actuel, vous l'avez rappelé, pas évident, vous n'avez pas peur aussi de certaines réactions du public qui seraient choquées peut-être par certains passages, ou justement grâce à cette poésie, ça permet de faire passer des messages d'une autre manière.
Alors il y a tout le spectacle peut être vu par n'importe qui, même des enfants. C'est très souvent de manière poétique que sont traités, C'est comme chez Racine, on n'a jamais vu le sang quand on joue Racine. On ne voit pas le sang sur la scène, il est évoqué par la poésie, par la grandeur des personnages. C'est la même chose. On est dans une tragédie moderne. Amira Kalfala est une grande autrice, j'en suis sûr. Elle restera dans l'histoire algérienne.
Je m'appelle Julia Ining, je suis professeure de théâtre au CRD de Laval, Aglo. Voilà, je viens d'arriver à Laval, en Mayenne, ça fait 6 mois, donc je découvre la région. Et puis je découvre Jean-Luc Pinsard, le théâtre du Tiroir. C'était un peu le hasard, les gens avec qui je travaille, qui du coup travaillent avec Jean-Luc aussi. Donc voilà, ils cherchaient une comédienne. Voilà, m'a appelé et on s'est rencontrés comme ça. C'est un super plaisir. Je découvre l'auteur aussi, Amira Kalfala. J'étais très, très, très impressionnée. Ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Ça me parle beaucoup, ce texte, de par un peu mon histoire aussi. Donc, je suis brésilienne. En lisant ce texte, j'ai eu ce sentiment que ça parlait beaucoup de cette histoire de blessure qu'on hérite. De cette notion d'héritage, de ces blessures qui appartiennent à notre passé, pas vraiment à notre vécu, mais voilà, à cette histoire à laquelle on appartient. Et moi, donc, en tant que Brésilienne, qui est un peu ce même rapport par rapport à la dictature, et donc c'est toutes ces blessures-là qui habitent notre esprit, et venant aussi d'un pays colonisé, voilà. Donc tout ça, ça faisait écho à mon expérience. Ça m'a beaucoup parlé. Et donc voilà, donc j'ai accepté la proposition de Jean-Luc avec le plus grand plaisir. Et voilà. C'est pas évident. Je ne suis pas algérienne. Donc il y a eu un peu de recherche déjà pour un peu connaître un petit peu d'où vient ce personnage, quelle est son histoire, voilà, quel est son paysage. La pièce, elle est quelque part assez psychologique. Il y a en fait plein de choses qui se passent dans sa tête. J'ai jamais fait un personnage comme ça, donc oui, non, c'est pour moi, oui, une découverte. Pas facile, mais beaucoup de plaisir. Tout ce qu'on voit sur scène, c'est en fait ce qui se passe dans sa tête. Et ce rapport-là, pour moi, c'est la première fois que j'explore sur scène. De comment communiquer, en fait, ça. Comment communiquer cette idée-là, que tout se passe dans sa tête. C'est un jeu qui est différent, donc il est quelque part soutenu, mais il est présent, voilà. En fait, je suis là sur scène tout le long et j'interviens quelque part très peu. Il faut que je sois en fait en jeu tout le temps, garder l'énergie tout le long, alors qu'en fait, je fais très peu pendant longtemps, et ça, c'est un challenge.
Vous voulez parler la scène, oui, bien sûr.
C'est à cause de ce fleuve que je suis ici. Ce fleuve s'était mis à manger des hommes qui avaient toujours faim. On lui jetait des corps et il en demandait encore et encore. J'ai vu ce fleuve manger mes frères sous mes propres yeux. Tu comprends?
La pièce sera aussi proposée au Café du Garage à Olivet le vendredi 25 mars à 20h30. Et puis parmi les 3 événements dont on a parlé, il faut réserver pour la causerie autour des carnets politiques de la guerre d'Algérie. Ce dimanche à 15h à la bibliothèque d'Albert Legendre à Laval. Et pour ça, vous pouvez appeler le 02 43 49 85 69.
Et on va passer à la chronique Un autre écho de l'écho avec Soizic. Mais juste avant, on va écouter Compagnon de Feu Chatterton.
Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit.
Bonne nuit.
Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter.
là il est joué des caniches. C'est une musique qui plaît. Et là il est nos écouter. Un genou ne fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon de mauvais jour, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, les gens ne viennent pas au concert pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, que vous souhaitez une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnons des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillés, pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé au bord de la mer. Au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours.
D'écouter Compagnons de Feu Chatterton dans l'AJT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et comme promis, juste avant cette pause musicale, on va passer à la chronique de Soizic. Bonjour Soizic.
Bonjour Marie.
Et vous le savez forcément, l'élection présidentielle approche et les pronostics de vote sont de plus en plus difficiles.
Et oui, il ne vous a pas échappé que nous voterons pour élire notre futur président ou présidente dans moins d'un mois. Et il ne vous a pas échappé non plus que les sondages étaient de moins en moins fiables quant à l'issue de ces élections. Alors pourquoi ? Eh bien, une des explications tient à ce que l'on appelle en sociologie politique, la volatilité électorale.
Alors qu'est-ce que c'est donc que cette volatilité électorale ?
Eh bien, c'est le fait de ne plus voter de façon partisane, c'est-à-dire de ne plus voter par loyauté envers un parti, mais au contraire de passer d'un parti à l'autre au fil des élections en se décidant au dernier moment.
Et alors comment peut-on expliquer ce phénomène ?
Eh bien, cela va de pair avec deux tendances lourdes de notre société. D'une part, l'individualisme croissant a largement diminué l'influence des instances constituées telles que la famille, les syndicats, les partis, sans oublier bien sûr le curé. Parce que jusque dans les années 70, on s'y référait fréquemment pour voter, en faisant plus ou moins abstraction de ses propres convictions. Aujourd'hui, individualisme oblige, notre avis vaut autant que ses corps constitués. D'autre part, la forte augmentation du niveau global d'éducation et d'information nous rend légitime individuellement à nous exprimer en s'affranchissant d'une partisanerie trop englobante. Alors, n'ayant plus forcément recours aux lignes directrices des partis et face à l'immensité des problématiques, l'électeur contemporain, individualiste et informé, hésite. Et cette indécision peut prendre plusieurs formes. Il y a tout d'abord l'indécision pendant une campagne électorale. C'est ainsi qu'une enquête du CEVIPOF de 2018 a montré que lors de l'élection présidentielle de 2012, 51% des électeurs avaient changé au moins une fois d'avis au cours des 6 derniers mois de la campagne. Cette tendance s'est bien sûr amplifiée lors de l'élection présidentielle de 2017. Et puis il y a l'intermittence du vote. Alors ça consiste à passer du vote à l'abstention selon le type d'élection ou selon le programme, s'il nous convient ou non. Par exemple, au cours des 4 derniers scrutins nationaux, la part du vote intermittent est passée de 40% à 50% des inscrits. Et puis il y a aussi le changement des préférences électorales qui explique la volatilité électorale. En 20 ans, les 2/3 des électeurs ont au moins une fois changé leur vote. C'est ainsi qu'on se retrouve aux dernières élections municipales avec seulement 146 maires sur 36 000 communes qui appartiennent à la majorité présidentielle. C'est d'ailleurs aussi ce qui explique le rapprochement entre les élections présidentielles et législatives. Le peu d'espace entre ces deux échéances électorales diminue les risques de cohabitation en ne laissant pas trop le temps à l'électeur de changer d'avis. Mais la volatilité électorale, c'est aussi le reflet de l'affaiblissement d'un vote de classe et la baisse du sentiment d'appartenance à cette classe sociale. Parce que jusqu'à la fin du siècle dernier, du XXe siècle, la classe ouvrière votait majoritairement communiste et les classes moyennes salariées votaient socialistes. Or, à compter des présidentielles de 1995, cet électorat bascule en partie à droite, voire à l'extrême droite. Là encore, l'explication tient en un vote plus individualisé et moins associé à des intérêts de classe. L'effondrement des grandes institutions partisanes et religieuses, comme les mouvements de jeunesse catholique par exemple, ou le Parti communiste français, ont également concouru au phénomène. Et puis on a aussi la montée en puissance de l'électeur stratège. Alors l'électeur stratège c'est quoi? C'est celui qui va voter utile. Pour lui, mieux vaut avoir un candidat pas trop éloigné de ses opinions, même si ça n'est pas son candidat préféré. C'est l'explosion des votes contre à laquelle on assiste depuis quelques élections, plutôt qu'un vote d'adhésion. Et enfin, on a le vote sur enjeu, qui finit de brouiller les clivages partisans en mettant au centre du vote d'une part, les enjeux du moment, d'autre part, là encore, le type d'élection. Le vote devient un acte individuel et non plus déterminé par l'appartenance sociale. Les électeurs évaluent les avantages qu'ils pourraient tirer de la victoire d'un candidat plutôt qu'un autre, faisant peu cas de son étiquette politique, finalement. Ainsi, lors d'une campagne électorale, les électeurs restent attentifs aux thèmes qui leur importent, comme par exemple en ce moment, le pouvoir d'achat, la lutte contre le réchauffement climatique, l'insécurité, la lutte contre les inégalités sociales ou au contraire, une politique en faveur des entreprises. Toutefois, Marie, cette volatilité, certes de plus en plus importante, si l'on observe les changements radicaux de camp. Certes, les électeurs n'hésitent plus à passer du Parti socialiste à la France insoumise ou des Républicains à En Marche, mais en fait, peu change radicalement de camp en passant par exemple des Républicains à la France insoumise. Quoi qu'il en soit, on comprend bien qu'au vu de la part de plus en plus importante de ces électeurs volants, il devient de plus en plus compliqué de faire des prédictions quant à l'issue des élections. Et c'est bien pourquoi moi-même, je me garderai bien d'en faire, même si j'ai ma petite idée.
Merci beaucoup Swazignous, on ne va pas faire de prédictions sur ces élections.
On en reparlera après.
On en reparlera exactement d'ici quelques semaines. Merci beaucoup en tout cas Swazik, et puis dans 2 semaines pour une nouvelle chronique.
Ça marche.
On va passer à ce 3e épisode de notre feuilleton autour du club de roller de Marigné-Peton qui participe donc ce week-end à la manche de Coupe de France de roller à Château-Gontier au parc de Loisillières. Un parcours qu'ils connaissent bien puisqu'ils s'entraînent régulièrement dessus. Et c'est forcément un avantage selon Stéphanie Gandon, la présidente du club de roller, rencontrée justement lors d'un entraînement des compétiteurs sur place.
Alors ce circuit, donc en fait c'est un circuit routier, il fait 333 m. La particularité, donc c'est un circuit routier parce qu'il n'y a pas de virage symétrique. Pour les gens, c'est vrai qu'ils se disent pourquoi c'est pas une piste, la piste c'est 2 virages symétriques, un circuit routier c'est pas le cas. Il faut savoir que dans ce circuit, il y a quand même une petite montée qui n'a pas l'air comme ça, mais qui fait mal aux jambes. Et il faut savoir qu'il y a le virage juste avant de l'arrivée où on arrive très très vite, donc faut même, techniquement, il faut quand même contrôler sa vitesse. c'est quand même un avantage. On s'entraîne deux fois par semaine sur ce circuit, donc c'est vrai que c'est quand même un sacré avantage. On n'a pas trop... c'est qu'une plus-value pour nous. C'est que le club de Château-Gontier. Nous, on n'organise pas. D'habitude, nous, on organise toujours des compétitions sur notre piste. On fait toujours une compétition régionale sur la piste de Marigny-Peton. Là, ça fait 2-3 ans qu'on n'en fait pas parce qu'en fait, la salle qui touche en fait, cette piste est fermée pour des raisons de sécurité. Donc pour l'instant, on n'a pas les infrastructures pour accueillir du public. Donc on attend d'avoir tout ça pour remettre en place nos courses parce que c'était une course qui fonctionnait bien pour les petits. 200 patineurs, c'était plutôt bien. Nous, de Marigny, ouais, on va être une bonne quinzaine là, à participer de tout petit. Hein. Nos petits 6 ans, là, ils vont participer en super mini ou mini. Et puis bah, jusqu'à nos grands qui vont en junior B. Voilà, donc ça va être toutes les catégories. Bah, ça va être les podiums, hein, je pense. Voilà, on va chercher le podium maximum. C'est ça le but. Se faire repérer aussi par les entraîneurs régionaux. Voilà, faut qu'on se fasse voir. Voilà. Après, ça va être la première compétition extérieure, donc faut aussi reprendre des sensations. On n'a fait que de la salle pour l'instant. Bah déjà, c'est pas du tout les mêmes distances. En salle, c'est des plus petites distances, ça va vite. Techniquement, on arrive très vite dans le virage. Là, c'est vraiment du fond, même s'il y a aussi de la vitesse, mais physiquement, c'est plus dur quand même. C'est pas du tout la même chose. Nous, on fait beaucoup de roller parce qu'en fait, on considère que le physique, tout ce qui peut, qu'il y a beaucoup de jeunes qui courent aussi en dehors, ça, c'est un plus-value à nos entraînements, c'est-à-dire qu'ils le font par eux-mêmes. Voilà, on pourrait le faire, mais bon, comme on est bénévole, comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas être tous les jours, déjà beaucoup de temps, voilà, c'est ça.
Et demain, lors de notre dernier épisode, vous découvrirez le portrait de l'un de ses champions du club, Alexis Guioulier, qui a déjà obtenu d'ailleurs d'autres titres. On en parlera aussi demain. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour ce mercredi. Salut Andy, à demain.
Salut Marie, à demain.
Alors, avec le micro allumé, c'est mieux, ouais. C'est mieux évidemment. À demain Andy. Mais nous, vous, restez avec nous. C'est ça, on va y arriver. Et à 19h, il y aura Novorama. Ce sera suivi à 21h de Chaosphère avec ce soir les derniers albums sortis dans le style Funeral Doom. Vous m'expliquerez ce que c'est. Nous, on se retrouve demain, vous l'avez compris, à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée.